Hey, Kung, monte pas le WAM, on veut partir à la REM.
Chez vous ou place assise?
C'est pas possible.
Mais si, c'est bleu si peau.
Il est sorti.
Privé de sortie. L'émission des confinés de Marseille.
Privé de sortie.
C'est l'émission des confinés de Marseille en direct depuis un appart confiné, bien sûr.
Salut la MIF, salut Marseille, salut la Loire, salut Brest. C'est privé de sortie depuis un appart confiné.
Salut tout le monde.
Allez, vous êtes sur Radio Galère, Radio DC ou Radio Piquez. On est le 29 avril 2020, 44e jour de confinement. Et hier, Ordure Philippe a fait son speech tant attendu à l'Assemblée nationale à propos du déconfinement. Tellement attendu que personne ne l'a écouté. De toute façon, ils naviguent tous tellement à vue que dans ce gouvernement, qu'on se demande bien ce qu'ils pourraient avoir à dire, qu'ils ne seraient pas contredits par un sous-fifre zélé, un préfet, un chef de cabinet ou même un président une semaine plus tard. Ce que j'en retiens, enfin ce que j'en ai lu, c'est que la saison de Ligue 1 est d'ores et déjà terminée. En tout cas, elle reprendra pas. Donc l'OM finit donc à la saison à la deuxième place au classement général. Ça tombe bien, Skip, les premiers seront les derniers. Du coup, deuxième, ça va. Voilà. Donc on en est là. Hein, au bout de 44 jours de confinement, quand même, on commence à parler foot. Je pensais pas en arriver là un jour, j'avoue. Je sais pas trop ce qui se passe. Bon, vas-y, en fait, si on parle de foot, c'est parce que sur 8721 mots prononcés, oui, j'ai compté, une heure de speech, notre sale Premier ministre n'a pas parlé une seule fois des 70 000 prisonniers qui n'ont plus de parloir et dont la saison confinée va sûrement se prolonger sans aucun gros titre, ni même petit d'ailleurs. Pas un mot sur les personnes sans papier, pas un mot sur les personnes à la rue, pas un mot sur les loyers, pas un mot sur les distributions de nourriture qui ont lieu dans tout le pays à une échelle jamais vue depuis des années, pas un mot sur les chômeurs chômeuses, il n'a pas utilisé le mot précaire non plus, bref. Bon, il a quand même réussi à s'auto-célébrer dans tout ça, puisqu'il a fait remarquer aux députés que son discours aurait pu être réservé à TF1 et que c'était une preuve de démocratie de l'avoir fait devant une assemblée nationale acquise à sa cause. Voilà.
Allez, bravo.
Bravo.
La démocratie.
Niveau foutage de gueule, c'est quand même du joli. Donc, le non-projet de non-déconfinement a bien été voté à une large majorité, on est rassuré. La démocratie française n'a pas été obstruée par une fronde révolutionnaire marxiste au sein des députés LREM. Bon, il y a quand même une de leurs députés, qui a voté contre. Elle s'appelle Martine Vonner. On parlera pas des aventures de Martine. Et c'est un peu intéressant de voir qui c'est cette Martine, puisque déjà elle est députée du Bas-Rhin, donc on sait toutes et tous que c'est une des zones les plus touchées par le Covid et que ça peut éventuellement lui donner un peu de crédit. Et puis en fait, avant d'être députée, elle était toubib. Elle a déclaré, suite à son vote contre, elle a déclaré « Je regrette dans ce plan l'absence d'une quelconque stratégie thérapeutique visant à soigner précocement les personnes testées Covid ». Voilà, donc urgence sanitaire, mais on soigne pas les gens. Bon, pas besoin d'en dire plus, je crois, on va encore demander aux femmes de coudre des masques, de bosser en caisse ou à l'hôpital avec des moyens de merde. On va continuer d'exiger des pauvres qu'ils reprennent les chantiers sans protection ou qu'ils transportent les colis des télétravailleurs. On va même peut-être continuer de demander aux bénévoles de marauder, de continuer la distribution de colis que personne d'autre ne prend en charge. Et les personnes déjà malades d'autres pathologies devront rester chez elles, chez eux, pour ne pas se choper un petit Covid de déconfinement. Sans compter qu'on va sûrement garder suffisamment de flou et d'arbitraire dans ce qu'on autorise de déplacement pour pouvoir continuer d'emmerder celles et ceux que les flics ont toujours préféré emmerder. Je vous laisse vous faire votre idée là-dessus. Un bien beau programme de déconfinement, c'est réjouissant tout ça. Vivement le 11 mai, les amis.
Ouais, ah ouais, on n'en peut plus là, ça y est.
Ouais. Le 11 mai, si c'est bleu cipo.
Ça sera le mot de l'émission.
C'est un peu le mot d'émission, en effet.
Bleu cipo, c'est bleu cipo.
On va renouveler le verlan par l'arrière.
Ouais. Bon, alors aujourd'hui, on aura les traditionnels brefs d'actualité. On écoutera les chroniques de R et de PF. On aura un petit morceau de l'envolée, l'émission du coup sur les tôles que vous pourrez retrouver autrement sur envolé.net dans la rubrique émission de radio et également tous les midis, je crois, sur Grade de Galère, c'est
Absolument.
Ça? Absolument. Ok. On a aussi un petit extrait de l'émission Bras Zéro des copains et copines de Toulouse. Et on va parler aussi d'une compile de soutien au STRAS, le syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe.
Si, si.
Et quelques brèves.
Et quelques brèves, bon bah on vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos chroniques ou quoi que ce soit, d'ailleurs vos propositions sur notre mail pvsortie@riseup.net, propositions sauf de mariage évidemment, que vous pouvez écouter notre podcast sur irzis.at /pvsortie, et voilà, et que Parloir Libre se tient tous les jours, dont ce soir de 20h à 21h sur cette même antenne, et que vous pouvez les joindre au 07 58 29 99 35. Et aujourd'hui, comme tous les jours, on va écouter de la musique, peut-être un peu plus que d'habitude d'ailleurs.
Ouais, on verra. Bah, en tout cas, c'est une playlist funk soul que je vous ai concocté là, il fait beau.
J'ai
envie de mettre un peu d'ambiance, et d'ailleurs on va commencer tout de suite si ça vous va.
Avec plaisir.
Par un morceau des Honey Drippers qui s'appelle Impeach the President. Ce morceau, il a été samplé un milliard de fois pour son break du
début. Ladies and gentlemen, we have the Honey Drippers in the house tonight. And they just got back from Washington DC. I think they got something they want to say. We'll be right back.
Ça fait 3 jours, ça fait 5 jours, ça fait 8 jours, ça fait 10 jours, ça fait des années qu'on est enfermés chez nous. Mais comment ils veulent qu'on tienne? Mais c'est eux les grands malades, pas dans leur tête ou quoi? Vous êtes dangereux, on va vous la mettre à l'envers. Chronique de confinement. Je me fatigue toute seule à me réveiller tous les matins avec des étoiles dans les yeux. C'est super, c'est génial, je suis hyper impressionnée de ce qui se passe à Marseille. Bla bla bla. Et puis, un événement anodin est venu ébranler mon euphorie, à moitié nerveuse, j'avoue. Dans la continuité de la récup de quartier, nous échangeons beaucoup avec les voisins. Et on en vient à parler de tout et de rien. Et au fil des discussions, mon ouverture d'esprit commence à se heurter aux idées des autres. Je discute avec l'un d'eux sur comment se passent les récups. C'est assez joyeux et nous partageons gaiement notre enthousiasme. Je n'ai pas très bien compris comment la discussion a dévié, mais quoi qu'il en soit, il est venu à la lâcher, la bombe. Il raconte sa rencontre avec deux femmes venues déposer des colis. Il reste assez vague, sans être jugeant. Mais ça m'a quand même mise en alerte. Là, j'aurais dû me méfier. Parce qu'à l'intérieur de moi, quelque chose s'est crispé. Je le laisse continuer. Il décrit les personnes et s'attarde sur la manière dont elles sont habillées. Et là, ce fut le drame. Il me parle de leurs jambes et s'étonne du fait qu'elles ne s'épilent pas. J'étais sous le choc. J'y croyais pas. Les sons qui sont sortis de ma bouche à ce moment-là restent encore inaudibles dans mon esprit. Je me souviens lui avoir demandé s'il était au courant que les femmes aussi naissent avec des poils. Et lui de me répondre de but en blanc. Mais pas autant que nous. J'étais atterrée. J'avais en face de moi l'ancêtre de Cro-Magnon, fraîchement découvert sous le permafrost. J'ai eu envie de l'y renvoyer direct, mais je me suis contentée de lui dire que j'avais certainement fait plus de chemin que lui dans l'évolution et que quoi que je dise, il ne l'entendrait pas. Une réponse peu glorieuse, mais qui vaut peut-être mieux qu'un coup de tête. Je ne m'attendais pas à ce que mon expérience d'organisation collective dans le voisinage aurait eu comme limite la pilosité des femmes.
Privé de sortie.
Privé de sortie, c'est tous les jours de 16 à 17 heures sur Radio Galère. Ouais, vous êtes toujours sur Radio Galère à l'écoute de Privé de sortie. On est là tous les jours de 16 à 17 heures. Et comme tous les jours, on va vous faire des petites brèves d'actualité. On commence par une première volée, on en fera sûrement une deuxième.
Ouais, on commence avec du neuf dans le banderole game. Il y a une Toulousaine qui avait passé 4 heures en geôle et une petite interview à la maison Poulaga pour une banderole Macronavirus à quand la fin. On vous en avait déjà parlé. Et ben, ses colocataires ont été convoqués en audition libre dans le cadre d'une enquête pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. On imagine que les plus fins limiers toulousains sont sur le coup et bossent d'arrache-pied autant qu'une Glief 4. Et là, ça prend un peu des proportions incroyables, mais ça s'arrête pas là. Le PROC et la police de Toulouse, ils sont en guerre, ils sont en croisade même contre la liberté d'expression au balcon. Dimanche, les keufs sont intervenus dans le quartier de Bonnefoy chez un mec qui a affiché le même slogan et l'ont donc menacé de garde à vue s'il remballait pas la banderole incriminée.
Et puis on va parler aussi du décompte global des décès.
Ouais, on en parlait déjà hier. La nouvelle du jour, c'est que le chiffre global des décès liés au Covid-19, qui inclurait les décomptes des hôpitaux, des EHPAD et aussi des morts à domicile dont il était question hier, ne sera connu qu'en juin. C'est ce qu'a promis le ministre de la Santé Olivier Véran à l'Assemblée nationale, aujourd'hui même, lors de la séance des questions au gouvernement. Et donc Olivier Véran de préciser, nous avons reçu une première alerte de la part de Santé publique France sur une possible surmortalité à domicile, qui ne serait d'ailleurs pas forcément lié au Covid, mais peut-être plutôt aux complications médicales de gens qui ne sont pas allés consulter à l'hôpital. Alors en fait, si les médecins généralistes ont alerté sur cette surmortalité à domicile, eux, ils l'attribuent plutôt au Covid, mais si tant est qu'elle est bien liée à des complications médicales, liées à d'autres pathologies, le gouvernement aurait aussi des comptes à rendre de ces décès, lui qui a été totalement incapable de sécuriser les parcours de soins classiques avec des masques, du gel hydroalcoolique et une communication sérieuse et sans mensonge.
Ok, Macron, il avait dit en 2017, je sais pas si vous vous souvenez, qu'il voulait que personne n'ait à dormir dans la rue. Il commence à tenir promesse vu que les SDF sont verbalisés pour non-respect du confinement et envoyés en tôle. Le 20 avril, un type sans domicile fixe qui sortait de prison s'est taillé les veines au tribunal de Nantes à l'annonce d'une nouvelle condamnation de 2 mois ferme. Il a été soigné dans les geôles du tribunal. Il était accusé d'avoir volé une paire de baskets à 15 balles et d'avoir violé une interdiction de séjour en Loire-Atlantique alors qu'il devait pointer au commissariat de Nantes. La justice de classe à son top, la guerre aux pauvres. Si vous avez une idée de comment un juge comme ça peut se regarder dans un miroir, vous pouvez envoyer un mail à pvsortie@riseup.net.
Dans un tout autre ordre de domaine, on apprend qu'après la Grande-Bretagne, l'alerte a été donnée à Paris où de jeunes enfants sont hospitalisés en réanimation dans un état grave. Alors ils présenteraient des symptômes inflammatoires qui sont proches de la maladie de Kawasaki. L'alerte est donc au départ venue du Royaume-Uni, où le National Health Service, NHS, a fait état d'une 12aine d'enfants hospitalisés dans un état grave. Alors pour la plupart, ils sont positifs au Covid-19 et ces jeunes patients présentent une forte fièvre et des inflammations des artères. 26 cas ont été hospitalisés en réanimation en région parisienne, donc du même ordre, des gens dans le même état, je veux dire des enfants dans le même état. Donc 26 cas en région parisienne ces 3 dernières semaines et 10aine en particulier dans ce centre spécialisé de l'hôpital Necker. L'équipe de l'hôpital Necker s'inquiète de cet afflux de jeunes patients en décalage avec la pandémie en Ile-de-France. Et joint par téléphone, le docteur Damien Bonnet est surpris de la temporalité. On l'écoute, il explique que l'épidémie a démarré il y a 5 semaines en Ile-de-France et ses jeunes enfants affluent depuis 15 jours. Il y a eu une hausse depuis vendredi. C'est un phénomène qui nous ennuie. La bonne nouvelle, c'est qu'ils s'améliorent très vite et qu'ils sont en péril juste quelques heures. Voilà, encore un nouvel argument pour ne pas rouvrir les écoles le 11 mai.
Ok, ben je crois qu'on va enchaîner avec un petit morceau pour se remonter le moral. On va écouter Edibo avec Chuck Your Bucket. Galère, il est sorti.
Yes, toujours à l'écoute de Privé de Sortie. Et on va s'écouter un petit un morceau de l'émission produite par L'Envolée. Donc L'Envolée produit une émission complète par semaine qui dure une heure et demie. C'est chaque vendredi sur Fréquence Paris Pluriel à Paris. Et depuis pas mal de semaines maintenant, tient même un point quotidien sur l'état des prisons et des lieux d'enfermement dans cette crise du Covid. Ce petit point, il dure un quart d'heure par jour. Il est diffusé sur FPP, il est rediffusé également sur Radio Galère chaque midi ou presque. Et donc du coup, dans la dernière émission, la précédente émission, donc celle de vendredi dernier, l'équipe de L'Envolée revenait sur la fabrication de masques en prison et en fait la gestion des masques en prison. Et les infos sont assez intéressantes, du coup on vous laisse écouter ça.
Nous allons vous parler des masques et des protections et des malades en tôle.
Bah ouais, de l'ambiance délétère dans laquelle on est, où les chiffres évidemment ne veulent rien dire, on le répétera jamais assez. Sur le nombre de gens qui sont malades, une petite quand même dédicace, si on peut dire ça comme ça, aux prisonniers malades de Villepin, qui sont partis en réanimation, il y en a au moins deux dont on est au courant. Pareil pour Mo, Chouconin, on sait que quelqu'un est parti en réanimation, et là-dessus, on n'en sait pas beaucoup. Comme à l'extérieur, le mensonge est réel, les chiffres, c'est très difficile d'en faire quelque chose. Les seules choses qui est sorties un petit peu officiellement cette semaine, c'est que les surveillants, certains surveillants pénitentiaires et les syndicats de directeurs ont officialisé le fait que depuis le début de ce confinement, la consigne était de ne pas donner de masque à personne à l'intérieur, ni aux matons, ni aux prisonniers, et surtout de tenir le même discours qu'à l'extérieur, à savoir, les masques, c'est bon, on s'en bat la race, ça sert à rien. Donc, pendant au moins les 15 premiers jours du confinement, disaient aujourd'hui les syndicats de matons, ils l'ont dit cette semaine, la consigne officielle au sein de l'administration pénitentiaire était de dire que le masque était inutile, comme dehors. Et c'était une consigne officielle. Et interdire le port du masque jusqu'au 31 mars, où là, d'un seul coup, on impose le port du masque aux surveillants pénitentiaires, qui n'en ont pas forcément, et date à laquelle on n'en donne toujours pas aux prisonniers. Donc, évidemment, le SPS, le petit syndicat de matons réactionnaires d'extrême droite qu'on n'aura jamais assez dénoncé à cette antenne, s'insurge, gueule, voilà, etc., mais ne demande jamais de masque pour les prisonniers, hein, évidemment, parce qu'il y a toujours une césure entre les prisonniers et les matons, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis, il y a une directive qui a été motivée soi-disant par cette directive d'absence de masque était motivée soi-disant par la pénurie d'équipement. Et puis, il y en a d'autres qui disent, entre les lignes, dont une directrice de prison qui dit « Non, mais en fait, il fallait surtout, à tout prix, éviter d'inquiéter les prisonniers. La réalité, elle est à cet endroit-là. » Et alors, là-dessus, il y a des directeurs qui ont choisi d'outrepasser les directives nationales pour rassurer les équipes. Et du coup, et pour éviter que les matons démissionnent. Donc, ils auront bricolé des masques, donné des masques à ceci, cela, jusqu'au moment où on est arrivé où Nicole Belloubet a lancé cette machine et a mobilisé les prisonniers, dont on parlait déjà la semaine dernière, pour fabriquer des masques en détention, pour 6 balles de l'heure, en mobilisant des prisonniers à droite à gauche. Et cette semaine, elle a été visitée donc un centre.
Oui, c'est à Val-de-Ruel. Il y avait déjà un atelier, en fait. C'était un atelier de couture. Et là, il y a 137 prisonniers qui fabriquent 6000 masques par jour. Donc ça, c'est un peu l'idée. Donc elle y a été mardi. C'est des masques qui sont donc lavables, réutilisables 20 fois, etc. Et alors bon, quand on regarde la presse, il y a des prisonniers interviewés. Alors là, ils ont le sentiment d'être utiles. Ils sont prêts à travailler gratuitement, dit la presse. Mais pas un mot sur le fait qu'eux n'en ont pas. Alors eux, ils en ont. Ceux qui bossent, ils en ont.
Pendant qu'ils bossent.
Pendant qu'ils bossent, c'est tout.
Mais ils ont parlé de le sortir dans la coursive après.
Non, mais c'est une hypocrisie, mais c'est incroyable. Enfin, c'est un mépris, mais c'est hallucinant, quoi. Et voilà, enfin, je veux dire, que dire de plus, quoi. Je veux dire.
Y a une phrase de Slimane qui nous envoie un message et qui dit
MDR, vous osez aller voir les prisonniers pour voir s'ils font bien leur travail. Je rêve. Ils fabriquent des masques pour qui ? Pour vous et votre gouvernement. Et pour les prisonniers, rien, comme d'habitude. Gardez bien votre pouvoir au chaud, là.
Ouais, bien dit, Slimane. On sait aussi que dans certaines détentions, des prisonniers ont été sanctionnés et se sont pris des CRI parce qu'ils avaient confectionné des petits masques artisanaux, comme tout le monde le fait dehors, puisqu'il n'y en a pas qui sont donnés. Du coup, des prisonniers ont commencé à s'en fabriquer eux-mêmes en dehors des ateliers pour eux-mêmes, puisque ceux des ateliers sont faits, comme tu disais, Floral, pour l'administration pénitentiaire et pour le personnel soignant, et certainement pas pour eux. Du coup, ils ont mis des masques artisanaux, et là, bim, CRI, compte rendu d'incident, etc., en mode, tu ne te masqueras pas en détention. Voilà. Et on sait aussi que les gens qui voudraient se faire parvenir des masques de l'extérieur sont... c'est impossible, Sylvia, ce que tu disais.
Non, c'est impossible. Alors, ça veut dire que si, là, par exemple, à Saint-Maur, il y a quelqu'un qui avait le droit de faire rentrer des objets qui avaient été autorisés par l'administration pénitentiaire, mais étant donné qu'il n'y a pas de parloir, ils ont envoyé un colis avec ces objets qui a été tout de suite immédiatement même pas ouvert et retour à l'envoyeur immédiat. Dedans, il y avait des masques et du gel. Donc ouais, c'est impossible de faire rentrer des masques. Je me souviens à l'époque quand on était on voulait des petits sapins, vous savez qu'on met dans les voitures, on pouvait les faire les mettre dans les enveloppes. Je vois pourquoi on pourrait pas mettre un masque dans une enveloppe et l'envoyer à notre proche en détention. Je vois pas où est le problème. Alors, fermez vos gueules, vous n'aurez pas vos parloirs parce que c'est la pandémie, mais fermez vos gueules, vous n'aurez pas de masque non plus et vous attraperez la maladie. C'est donc ce que l'État, clairement, et les administrations pénitentiaires font passer comme message indirectement aux prisonniers, puisqu'il n'est pas légal de se masquer le visage en détention, mais il n'est pas légal non plus de couper les liens familiaux. Donc, il y a un petit peu, c'est un peu contradictoire.
Ils choisissent la légalité. La légalité, c'est toujours un choix de ce qui arrange le pouvoir et l'État, hein, et l'administration en général, quoi. Mais là, c'est très net, quoi. C'est-à-dire qu'au nom de « t'as pas le droit de porter un masque en détention », en fait, du coup, tu pourras pas te protéger. Et ça, c'est une impasse dont ils peuvent pas sortir. Donc, ils vont protéger les personnels, ce qu'ils commencent à faire, avec des prisonniers qui travaillent pour ça, et rien pour les prisonniers à l'intérieur. On est au cœur, vraiment, de l'hypocrisie et le top du cynisme. Vraiment le top du cynisme. Les prisonniers sont bien rangés à leur place. C'est des prolos qui doivent taffer pour que dalle, comme les soignants, comme les livreurs. Et là, on va leur taper sur l'épaule en disant « Merci, c'est bien ce que vous faites, vous êtes vraiment gentils. » Mais en fait, vous... De toute façon, bah vous serez les derniers des derniers. Et déjà, c'est déjà bien ce que vous faites. Rachetez-vous un peu en fabriquant ces masques. C'est le message de la ministre de cette semaine.
Clairement.
Privé de sortie.
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 Privé de sortie. L'émission des confinés de Marseille.
Vous pouvez retrouver du coup l'envolée sur l'envolée.net. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la rubrique émission de radio.
Ok, ouais, moi je voulais faire un petit point sur le plan de déconfinement qui a été présenté hier par Édouard Philippe, le Premier ministre. Donc c'est assez évident que Macron, il est en roue libre dans ses déclarations, quoi, sur le déconfinement. Il balance des annonces comme ça sans en parler à ses ministres et puis il refile le bébé. Donc du coup, au gouvernement, ça marche sur des œufs un peu et ils essayent de rendre un peu le tout faisable comme ils peuvent. Donc du coup, sur la réouverture des écoles le 11 mai, déjà on voit que quand c'était pour dire que les masques servaient à rien, le gouvernement là suivait les recommandations du conseil scientifique. Quand il s'oppose à la réouverture des écoles, le gouvernement n'en tient pas compte. Voilà, donc Philippe, il a bien dit clairement qu'il laissait le choix d'envoyer les mômes à l'école, aux parents et aux directeurs et aux directrices des écoles, du coup, au niveau local. Donc là, en gros, bon, je sais pas, il s'en lave un peu les mains. Il laisse les autres décider. Très bien. Il a annoncé 700 000 tests PCR, donc c'est les cotons-tiges dans le nez, là. 700 000 tests PCR par semaine pour les cas contacts, c'est-à-dire les gens qui auraient été en contact avec une personne dépisté positif au Covid. Donc en fait, on voit que pour être testé, il faut avoir soit déjà des symptômes, soit avoir côtoyé une personne contaminée, ce qui prend du coup pas du tout en compte les cas asymptomatiques. Donc en fait, on voit que c'est encore une politique qui est basée sur le manque de tests. Il a annoncé également que les médecins et infirmières libéraux seraient à la première ligne pour repérer les cas contacts au sein des familles. Et au-delà, ce serait des brigades constituées de... constituées d'équipes de l'assurance maladie qui seraient mobilisées, ainsi que des mairies, des centres communaux d'action sociale, des départements, des grandes associations comme la Croix-Rouge, etc. Et donc, du coup, qui sont censés retracer les contacts des personnes qui ont été testées positives au Covid. Le but, c'est ensuite d'isoler rapidement les cas positifs Il a dit sans exclure des dispositifs de contrôle s'ils devaient être nécessaires. Donc là encore, on voit que les mesures répressives, en fait, on a des mesures répressives à une crise sanitaire. Surveiller et punir plutôt que de responsabiliser et convaincre. Je sais pas, on prend un peu l'habitude, quoi. Comment ça s'y fait ? Ensuite, un déconfinement qui serait différé en fonction des départements. Ça serait basé sur trois critères. D'abord, le taux de nouveaux cas, le niveau de tension dans les hôpitaux au niveau régional et enfin le système de tests suffisamment prêt ou pas. Donc là, les départements seraient divisés en deux catégories, rouge ou vert, qui détermineraient en fait un niveau de déconfinement avec des ajustements possibles au niveau local.
Il y aurait du orange aussi alors du coup. Rouge, vert, orange, c'est sympa, on nous parlait encore comme des adultes.
Ouais, voilà, tu vois, avec des gommettes et tout. C'est...
Pratique.
Voilà, comme ça, on est sûr de comprendre. Ensuite, il a expliqué que les masques seraient obligatoires dans les transports en commun, recommandés dans les collèges, lycées, les entreprises, les magasins. Donc Philippe assure qu'il y aura assez de masques dans le pays pour faire face aux besoins à partir du 11 mai.
Ouais, moi, ça fait un mois et demi qu'il nous dit ça.
Ouais, ça commence à être un running gag, cette histoire. Il a aussi eu cette phrase vraiment incroyable. Il a dit un peu trop d'insouciance et c'est l'épidémie qui repart. Un peu trop de prudence et c'est l'ensemble du pays qui s'enfonce. Donc ça, moi je le décrypte comme ça. Ça veut dire rester chez vous, sauf pour bosser en fait. Le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de mesures de protection des employés précises et contraignantes d'ailleurs pour les entreprises. Comme on l'a vu ces dernières semaines, même ces derniers mois, c'est à coup de grève, de référer aux tribunaux, etc., que en fait les salariés gagnent leurs conditions de travail et leurs conditions sanitaires de travail juste normales en fait.
Surtout dans des conditions, on a vu que la direction du travail était complètement mise de côté. Voilà, il y a plus de contrôle quoi.
Ouais, il y a plus de contre-pouvoir, on va dire, ou de garde-fou. Donc voilà, ça c'est encore un nouveau point qui nous surprend pas tellement puisque on voit bien que le but final c'est quand même de remettre les gens au boulot comme l'a confirmé Bruno Le Maire et Pénicaud. Donc pour moi là c'est vraiment ça qui ressort au milieu d'un grand flou au niveau des mesures, il n'y a pas grand chose de précis donc ce qui peut nous faire encore douter de l'efficacité du plan. Sinon, sur des mesures plus concrètes, c'est des rassemblements de 10 personnes max et plages fermées jusqu'au 1er juin pour l'instant, les déplacements limités à un rayon de 100 bornes jusqu'à l'été, les cafés et restos pour la réouverture, on voit ça en mai, et c'est ça, il va nous rester qu'à bosser quoi. Il reste que ça à faire quoi.
Et par ailleurs,
sauf pour les milliers de chômeurs en plus depuis le début de la crise. Hein.
De fait. Et par ailleurs, du coup, comme on évoquait des régions qui seraient confinées pas en même temps les unes que les autres, il est assez probable qu'à Marseille, on soit pas dans les premiers puisqu'on fait encore partie des régions où il y a un gros pic épidémique.
Ouais, en tout cas dans les Bouches-du-Rhône, donc à voir ce qui va se passer.
Ouais.
De toute façon là, on le capte. Hein, en ce moment, c'est un peu des déclarations à la semaine. On peut pas voir vraiment beaucoup plus loin, quoi.
C'est ça.
Ok, si ça vous va, on s'écoute Musica. Un petit Underdog par Sly and the Family Stone.
I'm the underdog. sometimes it got promoted, or she might be moving up too fast. Yeah, yeah, yeah. If you ever love somebody of a different set, I bet the set didn't last you forget. And it just don't go like that. Yeah, yeah. I know high speed, so people will stop, turn around and stare, signify limpid, and low rate, low rate me. Yeah, yeah, yeah. I don't mind. I'm the underdog. No, I can handle it. I'm the underdog. I'm the people you don't even know, simply because it happens to be a whole lot more of them. Yeah, yeah, yeah. Say I'm the underdog. I'm the underdog. I don't mind, 'cause I can handle it.
Chronique de PF.
Je sais pas pour vous, mais moi, à quasi chaque fois, je réagis en m'exclamant des trucs comme... Alors, je sais pas vous, je sais pas vous. Hier, dans la rue, de derrière un rideau de fer à moitié baissé, j'ai entendu cette réflexion très poétique. Le gouvernement, c'est des encubipes. Ça sert à rien, ce confinement. Le virus, y a que les vieux qui meurent, pas nous. Ouais, sur ce ton, c'est ravissant. Mais est-ce le virus qui tue les vieux? Ne serait-ce pas plutôt notre système qui tue les vieilles personnes? Notre système de santé, de soins, de prise en charge, soumis au système capitaliste, plus mortifère que jamais. Le taux de mortalité le plus élevé est chez les personnes âgées. Et chez les personnes pauvres. Selon les statistiques de l'INSEE, avec une augmentation des décès de 128% par rapport à 2019, sur la période allant du 1er mars au 13 avril, le département de Seine-Saint-Denis, alors que c'est l'un des plus jeunes de France, c'est à ce jour le deuxième département le plus touché. Vous avez vu passer ponctuellement ces cas de personnes vieilles, guéries, et que l'on publicise effectivement comme des cas rares, exceptionnels, comme des miracles. Moi, ça me dit surtout que même bien âgé, on peut guérir de ce virus. Mais attention, à condition probablement d'avoir accès à une prise en charge, puis d'avoir accès à des services de soins, puis ensuite d'avoir accès aux services de réanimation si c'est nécessaire, et à condition enfin que tout soit mis en œuvre pour sauver les personnes. Oui, mais voilà, ce n'est tout simplement pas le cas. Et c'est exactement de cela dont témoignait déjà le 9 avril, sur Basta Magazine, une infirmière au CHU de Nancy. Elle nous racontait comment se fait le tri à la réanimation. Simplement, on juge que telle personne est réanimable, pas réanimable. Et le critère premier est celui de l'âge. Deux semaines plus tard, dans son édition du 22 avril, Le Canard Enchaîné relève un truc gravissime. Une circulaire aurait appelé le 19 mars les hôpitaux à limiter l'accès des personnes fragiles à la réanimation. Peu de bruit et d'émoi autour de cette révélation. Avec les chiffres de Santé publique France, pour les personnes décédées en réanimation, donc à l'hôpital, jusqu'au 16 mars, l'âge moyen, c'était 84 ans. Et là-dedans, 75% avaient plus que 75 ans. Alors qu'ensuite, du 16 mars au 19 avril, l'âge moyen tombe à 70 ans, et ceux qui ont plus de 75 ans, ça tombe à 37%. Donc, en réanimation, dans les hôpitaux, il y a de moins en moins de vieux qui y meurent, mais parce qu'ils, elles, n'y sont tout simplement pas admis. Quant aux morts et mortes des EHPAD, bon, c'est l'hécatombe, souvenez-vous. Ils, elles, n'ont tout simplement pas été hospitalisés, en fait. Ils et elles n'ont, pour ainsi dire, pas été pris en charge, n'ont pas été transférés, elles ont mouru en établissement. La vie en EHPAD, c'est de la maltraitance institutionnelle et passive. La logique capitaliste de réduction des coûts à tout prix, quoi qu'il en coûte, comme diraient certains, pèse sur tous les résidents-résidentes et sur toutes les personnels. Et tout ce monde, à la fois victime et actrice de maltraitance passive, tant leurs conditions, soit de vie, soit de travail, sont épouvantables. Petit exemple trivial, mais tellement représentatif. Les couches sont comptées et non pas utilisées en fonction des besoins réels. Mais économiser sur des couches, mais ça rapporte bien plus qu'on imagine. Parmi les fondateurs de ces groupes privés, dans les 5 dernières années, il y en a 5 d'entre eux qui ont accédé au rang des 500 plus grandes fortunes françaises. C'est pas beau ça ? Arlette Charlot, le 11 avril dans son blog, démontre avec l'exemple du groupe Orpea comment les profits des dirigeants et les bénéfices des actionnaires ont grimpé en flèche, quasiment doublé en 5 ans. Alors pendant que les produits, les marchandises, que sont les vieilles personnes qui meurent seules avec du caca dans leur couche, les responsables éhontés dorment bien tranquilles et amassent des petites fortunes. C'est odieux. Je le redis et je me le ressasse et ça me brise le cœur. On, en tant que société, et eux, en tant que système pourri, après les avoir éloignés et oubliés, mis entre les mains de gestionnaires, nous laissons mourir les vieilles personnes dans des conditions abominables. Et on croit y échapper dans ce qui reste d'hôpital public, mais ce n'est guère mieux au final. C'est que toutes les vies n'ont pas le même prix dans le grand capital. C'est un fait. Bon, alors en plus, au départ, moi, je voulais parler de l'impunité policière, de la violence, du racisme, de l'humiliation, des violences physiques et sexuelles de la police comme faisant système, ou encore des milliards donnés aux entreprises telles que Air France, alors même que celle-ci essaye d'arnaquer sa clientèle en ne la remboursant pas comme elle est obligée, mais même en faisant de la contre-information, ouais, bon. C'est la joie totale, quoi. Ah mais si, attends, il y a Boris Johnson qui est papa. C'est super.
Bravo à Boris Johnson, félicitations.
Et bravo à PF aussi. Hein.
Merci à PF, t'assures.
Ouais, grave.
Et on continue avec le deuxième partie des brèves. Vous êtes toujours sur Radio Galère, l'émission c'est privé de sortie. Bon, l'appli Stop Covid, on en a pas mal parlé. Elle devait être débattue à l'origine, du coup, elle devait être débattue mais pas votée, puis débattue et votée, puis débattue et votée au milieu de toute une tapée d'autres mesures et sera finalement débattue et votée seule mais plus tard. Ça va vous suivre
compliqué. Hein.
Ok, Edouard Philippe, il a bien résumé le truc en disant qu'il comprenait pas bien comment l'appli elle fonctionne et si elle marchait vraiment et que de toute façon elle était pas encore prête. Le gouvernement a l'air de bien s'enliser sur cette histoire de Stop Covid. Cette application sera votre Vietnam.
Alors, on apprend aujourd'hui, non lundi, pardon, que les chiffres du chômage sont évidemment en hausse de fou. Donc lundi 27 mars, la DARES ou la DARDAR, je sais pas comment on l'appelle, la direction statistique du ministère du Travail a exceptionnellement dévoilé les statistiques des inscriptions à Pôle emploi pour le mois de mars, alors que le gouvernement avait décidé de publier ces chiffres seulement tous les trimestres. Et du coup, la situation est totalement hors du commun. Fin mars, Pôle emploi a décompté 246 100 personnes de plus inscrites en un mois dans sa catégorie A, celle qui recense les chômeurs n'ayant effectué aucune activité durant le mois. La situation devrait empirer car le chômage partiel, qui est prolongé jusqu'au 1er juin, vous en parlez tout à l'heure, et qui concerne un employé salarié sur deux, ne protégera donc les emplois que temporairement.
Ouais, justement, quelques précisions sur le chômage partiel. Les règles vont changer pour l'attribution du chômage partiel pour les parents d'élèves. À partir du 1er juin, les parents qui n'envoient pas leur bambin à l'école alors que celle-ci peut les accueillir ne pourront plus bénéficier du dispositif de chômage partiel. Pour les parents dont les enfants ne peuvent pas retourner à l'école parce qu'elle reste fermée, par exemple, ils devront fournir à leur employeur une attestation de l'école précisant que l'établissement ne peut pas accueillir l'enfant. Donc ça va nous faire encore des attestations. L'annonce a été faite mercredi 29 avril par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, sur qui on aimerait bien chier, tout simplement. Parce que selon elle, nous devons retourner au travail. Concernant l'ensemble des salariés en chômage partiel, Pénicaud a précisé qu'il y aura une évolution progressive du dispositif à partir du 1er juin, qui passera probablement par un taux de prise en charge un peu moins important par l'État des rémunérations versées par les entreprises, mais ça va être progressif. En gros, faut pas s'attendre à toucher un chômage partiel digne de ce nom, voire pas du tout à partir du 1er juin. Tu te souviens ce qu'il disait l'autre, quoi qu'il en coûte ? Des paroles, comme d'hab.
Des habitants de cités de banlieue parisienne ont reçu par courrier des amendes pour non-respect du confinement sans avoir été contrôlés. Point.
Et on apprend aujourd'hui la sortie d'un communiqué du collectif du 5 novembre, Noailles en colère, qui nous apprend que la mairie de Marseille a décidé de ne plus prendre en charge les frais de garde des animaux de compagnie des personnes délogées de leurs immeubles suite à des arrêtés de péril graves et imminents. Alors ces frais, qui s'élèvent à peu près à 300 euros par mois, seraient dorénavant à la charge des familles, faute de quoi les animaux seraient envoyés à la SPA pour adoption, voire euthanasiés s'ils ne trouvaient pas preneur. Ambiance. La mairie annonce aussi ne plus vouloir payer les places de parking. Selon les estimations du collectif, ces annonces permettraient de réaliser une économie de l'ordre de 15 000 euros par mois au maximum, une somme ridicule pour la seconde ville de France, mais un très lourd tribut pour les familles de délogés. Et le collectif de conclure, nous avons décidément la mairie la plus cynique du monde. Voilà pour les infos du jour. Je vous fais état qu'on a reçu un message comme quoi il y aurait des condés en planque dans une voiture banalisée blanche rue Langeron, qui ont l'air de surveiller l'immeuble en dessous de l'école. Faites gaffe et continuez à nous communiquer les infos à propos des keufs en circulation dans cette ville.
On veut de la musique.
Eh ben vous en aurez. Il y a The President avec Which Way qui arrive tout de suite.
We'll be right back.
êtes toujours privé de sortie de 16 à 17 heures sur le 88.4. Là, je voulais revenir sur un article qui est sorti aujourd'hui dans Mediapart qui s'appelle « Test Covid-19, la défaillance organisée au sommet de l'État ». Et où il est question d'un scandale qui est pas moins incroyable et totalement digne de ce gouvernement de merde. Pas moins incroyable, je veux dire, que le scandale des masques, en fait. Alors d'abord, un constat. La France n'est toujours pas en mesure de tester massivement sa population, comme l'OMS le recommande depuis le début de la pandémie. Et c'est donc ce retard invraisemblable qui est donc l'éternel mélange d'incompétence, de désinvolture, de cynisme et de réécriture de l'histoire que documente cet article de Mediapart. Et cette situation, on s'en doute, elle va compliquer considérablement la question du déconfinement, surtout avec cette date du 11 mai. C'est ainsi que Philippe Froguel, le directeur de la plateforme de génomique qui s'appelle Ligand à Lille, nous explique qu'on ne sera évidemment pas prêt le 11 mai pour effectuer les 700 000 tests virologiques par semaine qu'a promis Édouard Philippe. Au 28 avril, avec un taux de 9,1 personnes testées pour 1000, la France se situe très très loin de la moyenne des pays de l'OCDE, où la moyenne elle est de 23 personnes testées pour 1000, donc c'est même pas le tiers, enfin c'est le tiers à peu près. D'après Mediapart, ce sont pas les difficultés d'approvisionnement en matériel pour réaliser les tests qui sont en cause, mais bien un pilotage politique totalement hasardeux, quoi qu'on nous en dise, ici comme ailleurs, décidément. Alors on avait fait état ici même que le 29 mars dernier, le gouvernement laissait toujours sans réponse l'offre de services des laboratoires vétérinaires départementaux. Il en est de même pour les laboratoires de recherche publique qui étaient pas moins tenus à l'écart. La Direction Générale de la Santé et son réseau d'ARS, les antennes régionales de santé dont on parle tellement en ce moment, ne sont manifestement pas outillés pour gérer ce genre de crise. Et ils ont fait preuve de leur inefficacité ici encore en imposant que toutes les parties soient consultées. Donc ça a duré je ne sais combien de temps à faire tourner le dossier du ministère de l'Agriculture à l'Agence nationale de sécurité du médicament, la Haute Autorité de Santé et tout ça. Et ce temps précieux qui a été perdu, il a surtout été utilisé pour que chacune des parties multiplie les notes dont probablement elles servent surtout à mieux se couvrir en cas de procès. Alors finalement, une cellule test a été fabriquée, a été formée. Elle est placée sous la direction du directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Pour la petite histoire, elle a été créée le 1er avril, mais c'est pas pour rire. Et sa première grande mesure, ce sera de mandater un cabinet privé de conseil pour réaliser un audit sur les capacités des laboratoires à réaliser des tests en France. Autant dire, on repart à zéro ou presque. Et l'ironie de l'histoire, c'est que si la France a tant de mal à évaluer les capacités de tests sur son territoire et qu'elle doit recourir au privé pour ça, c'est lié à la fermeture de services au sein des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi. Et en l'occurrence, c'est une fermeture qui a été décidée par le gouvernement d'Édouard Philippe à l'été 2018. Autant dire, tout se paie et plutôt tôt que tard. En attendant, on continue à nous bananer avec des tests providentiels qui ne seront jamais prêts en temps et en heure.
Yep, et puis on voulait aussi vous parler d'une compilation de musique qui est sortie il y a quelques jours et qui est sortie à prix libre en format dématérialisé et qui remplira une cagnotte organisée par le Stras pour fournir une aide ponctuelle à l'ensemble des travailleurs et travailleuses du sexe. Et du coup, la compile s'appelle Pandemos, vous pouvez la retrouver sur Bandcamp, pandemoscompile.bandcamp.com. On écoute tout de suite 5 minutes d'extrait de cette compile, ça envoie du steak. C'est parti.
Tachycardie, t'as pris cher, dit. Tais-toi, j'essaie de respirer, d'espérer retrouver mes esprits, surprise de paniquer, de vouloir appliquer dans un endroit familier, de peur de m'humilier, humide de sueur, transi de peur, trop vite le cœur bat, le moral au plus bas, faut pas que je capote, faut que je trouve à appeler un pote, faut pas que je chie dans mon froc, cerveau poqué, pourquoi ça m'arrive là au moment où je suis loin de chez moi? Je vais chier là mais je sais pas, ouvrez la porte, me matez pas de la sorte. Je voudrais être invisible si possible, me téléporter. Putain de sortie avortée alors que j'avais tout mis de mon côté.
C'est Rosta et Temesta.
Mais c'est ton spectacle que je me donne. Putain je mérite des claques d'être aussi conne. Bonne à mettre à l'HP mais je veux ni être dehors, ni être enfermé, ni être mort, ni dans mes pensées. Je suis pas loin d'un
squat. Désolé c'est perturbant de rentrer dans vos stats. Pour certains c'est déroutant, du rap de meuf dans les bacs. Donc j'en profite pour garder la méthode et déballer mon sac. Beaucoup de choses à dire, j'arrête 16 pour 24. Désolé c'est perturbant de rentrer dans vos stats.
gagner du temps, il finit par se perdre. Au final on se ment et les choses deviennent aigres. Je vais l'oublier, je continue d'y penser. Ma vie n'est pas romantique, plutôt déjà chaotique. Je peux pas te détester, t'es trop parfaite. Je ne peux que tester pour cause de défaite. J'ai l'illusion que ça passe, que les choses se tassent. Rien ne change, tout se transforme. Pas de trauma, pam, pas de revanche. Comme dit Lina, je lâche la prise avant qu'elle ne lâche. S'entendre leur emprise, ça sert à rien d'être lâche. Tout ce qui me reste, c'est cette humiliation. Sauf par ablation, je peux pas l'effacer. Elle m'a cassé, c'est une guerre sous les muettes. Les blagues pleuvent à tue-tête.
Les jambes en l'air, cabriole. Rejoins mes mains, là. Je te tiens à ravir, là. Tu goûtes mes reins. Au petit matin, je saurai te porter. J'ai creusé un trou.
On va reprendre parce qu'on arrive sur la fin de cette émission. Donc il s'agit bien de la compile qui s'appelle Pandemos en soutien à la cagnotte du Stras. Vous avez pu entendre Grâce et Volupté, Radical J, Waka, Petra Pied de Biche, Pompon Sauvage. Il y en a plein d'autres, il y a 40 pistes. Ouais, ça fait plaisir de voir le truc qui se crée là, 40 artistes différentes, ça tue. Donc Meuf, Gwyn, personnes trans ou racisées se sont rassemblées à travers cette compilation pour répondre à l'appel du Stras. Plein de projets musicaux, des personnes, des expressions, des idées, des luttes. Nous sommes toutes, elles nous disent que nous sommes toutes conscientes de la précarité par laquelle sont touchées les TDS en temps de pandémie, car le confinement n'est pas le même pour tous et toutes. La compile est dédiée à Zelda Wynen. Vous pouvez la retrouver sur Bandcamp. On mettra les liens sur notre Facebook également. N'hésitez pas à soutenir, ça ira dans la cagnotte du Stras. C'est une pure initiative, ça défonce.
Yes.
Et ben voilà, on va se quitter là-dessus, les amis.
Trop bien. Trop bien, trop bien. Bah, on peut pas vous dire de quoi on va parler demain parce qu'on n'en sait encore trop rien, mais on est confiant. Il y aura plein de choses à dire.
Faut pas le dire. Allez, des bisous, la famille. À demain, 16h.
Allez, ciao, tout le monde.
On vous embrasse.
Privé de sortie.
Privé de sortie.
C'est l'émission des confinés de Marseille en direct depuis un appart confiné, bien sûr.